Because you're worth it. You're worth it.
我们都值得拥有。
We're worth it. 我们值得拥有。
Parce que nous le valons bien.
Vous le valez bien.
Vous le valez bien.
Vous le valez bien.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, rebonjour même, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parce qu'ils le valent bien, votre émission sur l'ENS et les gens qui l'habitent. Aujourd'hui pour ce numéro en direct, je reçois Sylvie Martin, vice-présidente chargée des études, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler aujourd'hui de votre parcours, de votre travail de vice-présidente de l'ENS, de vos recherches aussi. Et comme d'habitude dans Parce qu'ils le valent bien, les pauses musicales ont été définies.Par notre invité. Alors ma première question est une question qu'on a déjà dû beaucoup vous poser. Comment en êtes-vous venu à l'étude du russe, d'autant plus que vous avez, j'imagine, commencé vos études dans le contexte des années 70 et de la guerre froide ?
Ça dépend ce que vous appelez commencer des études, parce que en ce qui concerne l'étude du russe, je l'ai commencé très précisément en 1969. C'est-à-dire que le russe a été ma première langue, et je vais vous décevoir, j'ai fait du russe pour contourner la carte scolaire. Donc, comme beaucoup de mes camarades d'ailleurs dans cette classe russe première langue. Et je suis tombée amoureuse de cette langue et de cette culture. Et donc, par la suite, j'en ai fait une partie de ma vie, tout simplement.
Oui, bah oui, puisque vous êtes professeur de langue, littérature et civilisation russe, ici à l'ENS. Alors, toujours sur cette question de l'étude du russe... Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des voyages scolaires ou des voyages d'études dans les années 70 ou 80 ?
Alors, ça n'était pas facile d'aller en URSS, puisque c'était l'URSS à l'époque. J'ai fait un premier voyage qui était un voyage scolaire lorsque j'étais en classe de 3e, et où effectivement, c'était le voyage scolaire typique, avec où l'on nous montrait ce que l'on voulait bien nous montrer, mais nous avions 14 ans, donc...Surtout, je crois que ça nous allait assez bien. J'ai fait un séjour plus long lorsque j'étais élève de l'école de Fontenay-aux-Roses, puisque les élèves en langue partaient, c'est toujours d'ailleurs le cas,
oui. Un
an à l'étranger avant de passer l'agrégation. Et je suis partie à ce moment-là, un an à Moscou, dans des conditions un peu particulières, puisque nous étions logés dans un foyer qui n'était habité que par des étrangers. Mmh. Et nous n'avions pas le droit de suivre des cours à l'université Lomonossov, à l'université de Moscou. Donc c'était un peu particulier, mais c'est aussi un apprentissage.
Oui, 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 passer dans cet autre monde, alors soviétique. Alors là, vous nous parliez donc de ce foyer. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs marquants, finalement, de ce passage dans l'autre monde soviétique ?
Alors, si on parle purement de l'époque soviétique, oui, parce que cette année universitaire passée là-bas était l'année 1979, donc... entrée des troupes soviétiques en Afghanistan.
Oui, une année très particulière.
Donc un contexte très très spécial et la découverte de ce qu'était cette réalité pour des jeunes gens que nous étions habitués à vivre dans des conditions tout à fait différentes. Et ça marque énormément. Vous rentrez finalement... assez content d'être né là où vous êtes né. Comme je pense beaucoup de jeunes gens à cette époque et à cet âge, nous avions un regard très critique, qui d'ailleurs n'était pas toujours sans fondement, mais quand même, ça permet de relativiser beaucoup de choses.
Oui, et justement, dans le cadre donc des changements de régime après la fin du régime soviétique, comment avez-vous, vous, vécu ces changements politiques en Russie au cours des années 90, puis 2000 ?
Alors, j'ai eu la chance de participer à des projets qui se déroulaient dans la région de Nijni Novgorod dans les années de la Russie 1990, région dont le gouverneur était Boris Nemtsov, qui a connu une fin tragique il y a peu de temps. Et ça a été très instructif parce qu'effectivement, là, on a vu comment un régime de ce type qui s'effondre avec d'un seul coup une absence totale de l'État, puisqu'on n'avait plus du tout de puissance publique. Comment, dans ces cas-là, les ressources humaines, puisque ce sont celles-là qui restent, les ressources humaines d'un pays se mobilisent pour faire face. Mais on a peu, je pense, hein, il me semble qu'on a eu du mal à imaginer en Occident ce qu'ont été les conditions de vie des Russes dans la décennie 1990. Et c'est dommage parce que ça explique pour beaucoup l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir et son maintien au pouvoir. Il me semble que si on n'a pas connu la Russie des années 1990, on ne peut pas comprendre pourquoi les Russes ont eu tant envie d'un peu de stabilité.
Oui, parce que, bon, pour le rappeler pour nos auditeurs, les années 90 ont été marquées par une crise économique en Russie qui a été extrêmement violente pour la population, avec une dépréciation du rouble, je crois, qui a été absolument phénoménale.
Oui, on est revenu dans des régions entières du pays à l'économie de troc.
Oui, donc c'est une formule qui révèle bien l'état de la Russie pendant cette période-là. Alors vous êtes, vous l'avez dit, une ancienne élève de l'ENS de Fontenay-aux-Roses. Avez-vous un souvenir de l'école que vous voudriez nous faire partager pour conclure cette partie sur votre parcours?
Un souvenir de Fontenay-aux-Roses,
ou
oui, j'en ai beaucoup. Le souvenir que j'ai, je crois que c'est celui, c'est pareil, ça n'aura rien de très original, c'est le souvenir d'un monde tout à fait particulier. On entrait dans des bâtiments qui n'avaient rien de moderne et on se retrouvait d'un seul coup dans un espace de liberté absolument faramineux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée aussi. J'avais été une élève de classe préparatoire heureuse. J'ai un souvenir lumineux de mon année d'Hippocagne, beaucoup moins de l'année de Cagne, parce que comme toutes les années de concours, c'est tout de même un peu un tunnel. Mais en arrivant à Fontenay, d'abord, c'était le moment de quitter le foyer parental et c'était une époque où nous étions très heureux de partir de chez nos parents. Non pas que nous n'y étions pas mal, mais enfin, on avait envie de
s'émanciper.
Voilà, de vivre de nos propres ailes. Donc, on était très heureux de partir. Et je ne faisais pas exception. Et ça a été un espace de liberté extraordinaire, un rapport au travail, à l'étude. Tout à fait nouveau. Il faut s'imaginer une école qui n'était pas diplômante, où on faisait cours, y compris le dimanche, ça pouvait arriver, pourquoi pas, et où on allait en cours, je dirais simplement pour travailler.
Oui.
Voilà, on n'y allait pas pour passer des diplômes, on n'y allait pas pour avoir des notes. Je n'ai jamais eu une copie notée quand j'étais élève à l'école. Et on y allait simplement pour travailler. Alors un autre souvenir peut-être un peu plus, un peu plus amusant, c'est que quand je suis arrivée, le professeur qui conduisait les études russes à l'école à l'époque m'a dit « Bon, écoutez, vous êtes la seule cette année en russe. Il n'y a personne entre vous et les agrégatifs. Bon, je vais évidemment pas faire un cours pour vous. Donc, vous arrivez, vous rejoignez les agrégatifs. » Donc, j'ai eu une première année un peu dense.
Oui, on imagine volontiers.
Contrairement... Quand on m'a dit ça, évidemment, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Eh bien, je ne vous dis pas que je me suis ennuyée, mais ça faisait partie de cet espace que je vous décrivais où finalement, chacun pouvait trouver sa place parce qu'on travaillait dans un autre esprit que celui qui pouvait être un esprit, j'allais dire scolaire, mais même au bon sens du terme. Voilà, on était là pour faire... les choses autrement et pour faire aussi un peu autre chose.
D'accord. Et quel regard, vous n'y étiez plus élève, mais quel regard avez-vous porté sur la restructuration d'abord des écoles de Fontenay et de Saint-Cloud suite au déménagement à Lyon des scientifiques, puis le déménagement à Lyon de l'école littéraire, puis la réunification finalement récente?
Alors, le déménagement, enfin l'évolution des écoles, je l'ai vu de loin, puisque quand j'ai quitté Fontenay, j'étais bien persuadée que je ne reviendrais jamais à l'école. J'en étais même tout à fait certaine, donc vous voyez comme quoi il faut jamais jurer de rien.
Oui, bah oui.
J'ai su que ça se faisait. Quand j'étais élève, j'ai connu une école où il y avait à la fois les sciences et les lettres, et qui est devenue mixte. Donc, étant élève, j'ai connu, j'allais dire, l'école telle qu'elle est là, mixte et rassemblant les lettres et les sciences.
Oui, puisque la mixité date de 1980,
voilà,
je crois.
Voilà, exactement. Ça avait beaucoup changé les menus de la cantine. C'était un changement fondamental.
Ah oui.
Et donc je me dis qu'il a fallu presque tout un cheminement professionnel pour retrouver l'école en quelque sorte telle qu'elle était, évidemment avec les changements d'installation et le déménagement à Lyon, mais telle qu'elle était, mixte et rassemblant les lettres et les sciences. Donc vous voyez, c'est un chemin un peu en boucle.
Oui, la même école sous une autre forme.
Sous une autre forme, tout à fait.
Alors on va maintenant évoquer vos travaux, votre thèse comme vos travaux un petit peu plus récents, mais juste après une petite virgule musicale, on va écouter Strange Fruit de Billie Holiday.
In the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees.
Billie Holiday, Strange Fruit sur Transistor. Alors, je pars d'abord de votre thèse. Vous avez travaillé sur le personnage de Constantin Simonov, un des intellectuels importants, un des intellectuels qui compte dans l'Union soviétique stalinienne. Est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs un petit peu ce personnage, en quelques mots?
Présenter Constantin Simonov, c'est difficile. Et je peux vous expliquer peut-être pourquoi j'avais choisi de travailler sur lui.
Oui, oui, oui.
Parce que j'avais choisi au départ de travailler sur la littérature de guerre soviétique et qu'il a fallu restreindre un peu le sujet parce que la réforme des thèses est arrivée. Et donc j'ai choisi un des principaux écrivains de guerre qui est Constantin Simonov. Et j'ai choisi celui-là pour la raison que vous disiez, c'est-à-dire qu'en même temps, il était une des figures majeures de l'establishment stalinien de la littérature de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale. Et la littérature de guerre est un champ intéressant parce qu'on ne pouvait tout de même pas interdire aux écrivains d'écrire sur cette guerre qui avait été gagnée par l'URSS,
oui, bien sûr,
et qui lui avait donné son statut de superpuissance. Mais si vous écrivez sur la guerre, vous écrivez nécessairement sur le chef et sur le commandement. Et donc, ça permet de dire un certain nombre de choses, y compris si vous êtes, et c'était tout à fait le cas de Constantin Simonov, un écrivain officiel. Des formules un peu caustiques disaient que Constantin Simonov était toujours le premier à s'élancer sur un terrain déminé, c'est assez vrai, mais ça, étudier ces textes permet de voir comment un certain nombre d'idées cheminent à travers un lectorat très large et permet de comprendre donc comment peut évoluer, parce qu'il a évolué, ce régime et surtout cette société. Sinon, on ne voit pas comment on peut arriver à la période gorbatchevienne. Ça n'est pas... Certes, bon, Gorbatchev, en tant qu'individu, a joué un grand rôle, mais les évolutions sont beaucoup plus profondes. Et la littérature de guerre, de ce point de vue-là, est un champ intéressant pour observer un certain nombre de choses. D'où
D'accord.
mon choix.
D'accord. Et alors, plus récemment, vous avez travaillé sur Boris Tchitchirine, qui est un philosophe et juriste du 19e siècle. Alors, deux questions. Une première, finalement, qui est ce personnage? Et pourquoi ce parcours intellectuel, finalement, du 20e siècle au 19e?
Parce qu'entre-temps, il y a le passage de l'HDR, et là, j'avais travaillé sur la Russie des années 1990,
D'accord.
justement. Et dans cette Russie des années 1990, j'avais notamment lu un certain nombre de textes de ceux qui se présentaient comme des libéraux. Bon, Nemtsov en était un, c'était une des figures de proue, mais il y en avait d'autres. Et tous ces hommes politiques avaient comme référence le monde anglo-saxon. Et je m'étais dit que c'était un peu étrange, puisqu'on devait... Enfin, il m'avait semblé intéressant d'aller voir si on ne pouvait pas trouver
des figures intellectuelles
dans la Russie du 19e siècle des références de la pensée libérale. Mmh. Alors, le terme libéral est utilisé un peu, enfin, avec des sens très divers, je dirais, dans le lexique politique russe actuel, mais aussi celui du 19e siècle. Et Boris Tchitchirine est pour le coup un véritable théoricien du libéralisme, peut-être même le principal, certains disent le seul, du libéralisme à la fois politique et économique. Alors ça n'était pas un économiste, donc sa pensée économique était assez sommaire, mais sa pensée politique est beaucoup plus développée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler sur lui, puisqu'en arrivant à l'école, j'ai eu la mission de développer et de valoriser le fonds slave mis en dépôt, voilà, le fonds slave des jésuites, c'est ainsi qu'on l'appelle à l'école, et que ce fonds, dont le noyau et le joyau, je dirais, est la bibliothèque du prince Gagarine, est donc essentiellement tourné vers le XIXe siècle, avec beaucoup de collections ensuite de la Russie de l'immigration, mais la Russie de l'immigration n'était pas du tout mon champ. Et donc, c'est ce cheminement-là qui m'a amené vers Boris Tchitcherine.
D'accord. Et justement, Boris Tchitcherine, penseur libéral, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce personnage ?
Il n'a pas eu un sort très heureux, mais il s'est trouvé aux affaires, je dirais, au tout début des grandes réformes, donc à la fin des années 1850, quand la Russie sort d'un règne extrêmement coercitif et qui l'a beaucoup enfermé et attardé. Et Alexandre II arrive au pouvoir. C'est un moment dont on attend beaucoup. On trouve le terme de dégel et de perestroïka
dans le
lexique politique de cette époque-là. Et elle prépare les grandes réformes, dont la première est évidemment l'abolition du servage. Et Boris Tchitcherine, qui est juriste et qui va occuper la chaire de droit de l'État, c'est ainsi que ça s'appelait à l'université de Moscou, pense que c'est en développant l'enseignement à très haut niveau et en formant des jeunes gens d'une très grande qualité scientifique que l'on pourra faire évoluer le pays assez rapidement et lui apporter un certain nombre de compétences qui peuvent lui manquer. Donc, c'est un personnage qui, indépendamment de ses idées politiques, ne m'a pas laissée totalement indifférente. Et il a connu un sort un peu triste parce que les grandes réformes commencent à s'étioler à partir de 1866-67, et il quittera cette chaire de droit de l'État parce que le statut d'autonomie des universités n'est pas respecté. Il présentera sa démission et il va se retirer dans ses terres à Tambov, dans un très beau domaine. C'est une région magnifique. Et il y prendra une activité politique sous une autre forme, puisqu'il sera un membre actif.
Je crois. Il devient maire de Moscou.
Oui, mais aussi, ça, c'est après. Il devient d'abord, il a un rôle très actif dans le Zemstvo, donc dans ces institutions locales créées par les grandes réformes. Et puis ensuite, effectivement, il sera rappelé par ses amis à la tête de la Douma de Moscou et qu'il devra quitter parce qu'il en sera démis.
Très bien. Eh ben, merci pour cette présentation du personnage. Alors, on va passer de vos recherches à votre travail actuel de vice-présidente de l'ENS. Après une deuxième pause musicale, on va écouter Vladimir Vysotsky, La chasse au loup.
На серых хищников, матерых и щенков Кричат загонщики, и лаются и торфоты Кровь на снегу и пятна красные флажков И на равных играют с волками Егеря, но не дрогнет рука Оградив нам
Alors, donc, vous êtes actuellement vice-présidente de l'ENS depuis la rentrée 2014. Et lors de la prochaine rentrée, l'école aura remanié son offre de cours de manière générale et ses masters. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui. Nous sommes là dans la dernière ligne droite, donc je ne peux pas vous dire, ça va peut-être vous surprendre, exactement le nombre de mentions que nous allons proposer, puisque nous sommes encore là-dessus. Non, on en aura au maximum 34, mais ça nous suffira, oui. Je pense, largement pour former correctement nos étudiants. Ce sont des mentions qui sont toutes co-accréditées, donc ça c'est très important parce que ça donne la mesure de la place que souhaite occuper l'école dans la politique de site.
Et que change cette co-accréditation par rapport à la cohabilitation qui est actuellement en vigueur?
Ça implique un travail beaucoup plus concerté avec tous les établissements du site, puisque ces mentions sont copilotées. Donc on franchit un pas dans le travail au quotidien, dans le travail au quotidien de la formation des étudiants, en concertation très étroite et en collaboration très étroite avec les établissements partenaires du site. Ça, c'est très, très important.
Et donc, dans l'idée de proposer des masters qui, à l'échelle de l'Université de Lyon, seront, le mot compétitif n'est peut-être pas très bien choisi, mais seront importants peut-être du point de vue national.
Oui, nous l'espérons, mais ce qui est surtout très important, c'est qu'ils seront suffisamment attractifs, solides et bien construits pour permettre une formation optimale des étudiants.
Oui,
et c'est ça l'essentiel.
Oui, c'est le plus important. Alors, un autre chantier sur lequel l'école est actuellement engagée, c'est la réforme du diplôme de l'ENS, dont on parle aussi pour la rentrée prochaine. Dans quel sens parle-t-on de le réformer ?
L'école souhaite mettre en place un diplôme qui portera ce qu'est véritablement une formation normalienne. C'est-à-dire non seulement ce que vous évoquiez à l'instant, la formation à travers des diplômes que nous espérons bien construits, de bonne qualité, avec un fort adossement à la recherche, puisque notre mission est ainsi définie, formée par la recherche, que ce soit pour le monde académique ou pour la haute administration et les entreprises, mais de toute façon, c'est toujours une formation par la recherche. Mais à côté de cela, les étudiants font beaucoup d'autres choses, des séjours à l'international, des stages longs, de l'acquisition d'expériences professionnelles, de l'investissement dans l'associatif. Il y a énormément d'activités qui contribuent à former les gens. Former quelqu'un, ça n'est pas uniquement lui faire passer des diplômes.
Oui.
Et surtout lorsque l'on a pour ambition, et c'est la nôtre, de former des gens qui, dans 25 ans, occuperont des postes normalement clés, en tout cas seront des cadres supérieurs, non seulement de la nation, comme on disait autrefois, mais même sans doute un peu plus, à l'échelle européenne et même mondiale. Et assurer une formation avec cet objectif-là, ça ne se borne pas du tout à faire passer des diplômes à des étudiants.
Et concrètement, comment va-t-il s'agir de valoriser toute cette pluralité d'expériences que font les élèves de l'école ?
Ah, alors là, vous m'en demandez trop, parce que le groupe de travail est au travail, justement.
D'accord.
Et donc, je ne peux pas vous dire quelle sera la forme de ce diplôme, mais en tout cas, il mobilise beaucoup d'énergie. Et ce que je voudrais souligner, c'est à quel point ce groupe de travail, qui est composé à la fois d'enseignants, chercheurs et d'étudiants, a vraiment examiner des pistes très diverses, agiter des idées multiples, et j'espère que nous aurons un beau diplôme.
Donc on va attendre les conclusions de ce groupe de travail.
Exactement.
Que l'on suivra aussi ici sur Transistor. Alors, troisième pause musicale de cette émission, on va écouter de la poésie grecque, puisque nous allons écouter la poétesse antique Sappho, mise en musique et chantée par Angélique Ionatos et Nena Venetsanou, Asteron Panton au Callistos sur Transistor.
Φέρεις αγάπη, μάταιρ υπέδα, αστέρων πάντων, φέρον όσα φαινολείς.
Alors, oui.
Avec, si vous le permettez, un petit clin d'œil au master Mondes Anciens, puisque j'ai été aussi, il y a fort longtemps, une helléniste passionnée. Alors j'ai oublié ce que je savais de grec ancien, mais c'est vraiment une langue que j'ai étudiée avec énormément de plaisir.
Ah ouais, c'est une langue qui reste en mémoire quand on l'étudie. Alors on entre dans la dernière partie de cette émission qui va être courte puisqu'il est bientôt 16h30, mais c'est l'occasion d'avoir des mots un petit peu plus personnels. Si je vous dis littérature, quel livre spontanément me citeriez-vous ?
Spontanément ? Spontanément, j'irai vers la Russie quand même. Lieskov, Gogol, Pasternak, Tchekhov, mais pas son théâtre.
Pas son théâtre de Tchekhov ?
Non, ses récits.
D'accord. Alors, on a pu dans cette émission effleurer un petit peu vos goûts musicaux de manière très, 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 très restreinte, évidemment. On a entendu beaucoup de chansons, beaucoup de langues différentes aussi, du grec, du russe. Vous écoutez beaucoup de chansons ?
Ah, j'écoute beaucoup de chansons. J'écoute énormément de chansons pour plusieurs raisons. D'abord, je suis très sensible aux voix. Mmh. Je crois que c'est un... Enfin, voilà, on le perçoit, je pense, dans ces... ces quelques morceaux. La voix, c'est vraiment une présence. La voix, c'est l'humain. Et l'humain, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Le temps que j'ai passé à travailler sur la Russie m'a appris une chose. C'est que la première ressource, c'est toujours l'humain. La Russie est un pays qui a beaucoup sacrifié ses hommes et ses femmes, puisque... Il est convenu de dire oui. Comme ça maintenant. Donc ces hommes et ces femmes, et c'est un pays dont l'histoire vous apprend à quel point c'est tragique de sacrifier oui. Ce qui est la première des ressources. Et donc la voix, c'est d'abord l'humain, c'est une présence. Et puis j'aime beaucoup la chanson, j'en ai beaucoup écouté étant petite, j'en ai beaucoup appris, mais sans faire d'effort, parce que j'écoutais la radio et donc j'apprenais un peu comme un perroquet. La chanson, c'est vraiment une présence.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis pour ce mot de la fin sur l'humain et l'importance de l'humain, la chose la plus importante, parce qu'ils le valent bien, c'est déjà la fin. Il est 16h30. Merci Sylvie Martin d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup à vous.
Et on termine sur une dernière piste musicale avec Paul Robeson, Les Bateliers de la Volga.
Once more, boys and yet once more. Et ouvre-nien. Once more, boys.
Il est 16h31, nous arrivons dans la dernière demi-heure de cet après-midi. Il est temps maintenant d'écouter des textes, d'entendre des voix, justement, avec l'équipe des Yeux ont des oreilles, après une page de ces publicités un peu particulières dont nous vous avons gratifié cet après-midi.
Vous êtes en agrégation ? Pourquoi cacher votre souffrance ? Aujourd'hui, n'ayez plus honte, une solution existe. Les principes actifs d'Agrégo Apaisil agissent sur votre glande révisionnelle grâce à ces enzymes révolutionnaires à base de caféine, de proscaféine et de nuit blanchine. Adieu maux de tête et crampes cérébrales, dites bonjour à la moyenne sans effort.
C'est révolutionnaire. En une semaine, je me sens bien plus reposé, plus intelligent et bien plus efficace. Mes notes ont augmenté de moins 10,3 points. Maintenant, la Greg, c'est dans la poche.
Agrégo Apaisil est un médicament. Ne pas utiliser chez enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes. Lire attentivement la notice.